Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Puis cette semaine sur le podcast, on a un invité spécial pour parler de stock market avec Francis. Donc, sur ce, bonne écoute.
Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous montrer, parler, discuter aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Donc, je répète, on n'est pas conseiller financier, c'est seulement de l'information à titre
éducatif et récréatif.
Voilà. Si vous voyez des comptes sur Instagram, Facebook, etc. qui vous écrivent, ce sont des scams. Ils prennent les mêmes photos que nous, des noms qui nous ressemblent, ils copient nos profils. Faites attention, beaucoup de scams, n'envoyez pas de l'argent, n'envoyez pas de la crypto. Ne cliquez pas sur des liens, juste soyez prudents.
Sur ceci, bienvenue.
L'épisode du jour. Veux-tu commencer à ouvrir, sinon moi je commence.
Ben, si tu veux commencer par te présenter.
OK, ouais. C'est sûr que j'aurais pas une narration aussi grande que toi.
Le disclaimer, il est fait. C'est
le
good,
speech,
c'est safe.
C'est pour nous tous.
OK.
C'est un one shot, là.
Moi, ça fait depuis 2016, là, 2017 que je trade dans le marché boursier, les petites actions small cap. Fait que d'habitude, je vais chercher des actions entre 1$ et 10$, mauvaise compagnie, qui vont faire de la manipulation dans le marché. Puis, par conséquent, j'ai étudié ce domaine-là. Donc, je sais un peu les stratégies que les compagnies utilisent pour bouger leurs actions. Puis, je prends avantage de ce que je connais pour capitaliser là-dessus. Là. J'ai tombé temps plein, si on veut, là, après un an et demi d'avoir étudié ce domaine-là. Là. Nice. Ça fait plusieurs années que je suis à faire ça.
Les mauvaises compagnies, c'est un peu comme en crypto, t'as les shitcoins, on va les appeler les shitstocks.
Ouais, mais si on veut. Mais c'est que, tu sais, à la base, quand tu comprends pourquoi une compagnie est à la bourse, c'est pour faire de l'argent. T'sais, une compagnie ne tombe pas à la bourse pour t'aider, toi. Eux, ils vont à la bourse parce que, un, ils n'ont pas d'argent. C'est leur façon de lever de l'argent, puis d'une autre façon, faire des passes où est-ce qu'ils peuvent capitaliser. Là.
Puis nice. Toi, alors, est-ce que toi, tu shortes ces compagnies-là?
Ouais, fait que c'est sûr qu'au début, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces compagnies-là puis essayent de les acheter. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé, dans le fond, c'est quoi la tendance de ces compagnies-là puis qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils vont créer souvent de la promotion pour faire lever leur action. Puis j'ai réalisé que ça tenait pas longtemps. Puis par défaut, quand tu étais capable de timer le top, tu avais beaucoup de profit à faire sur le backside qui était sur un short. Là. Fait qu'au lieu d'être comme la masse à essayer d'attendre, de savoir c'est laquelle qui va monter, puis souvent tu arrives trop en retard, puis on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, quand t'achètes, ça tombe », puis là tu dis « Ah, pourquoi moi ?» On dirait qu'ils savent que la seconde que t'achètes, c'est là que ça plante. Mais c'est parce qu'ils chassent, ils chassent, ils chassent. Au lieu de faire ça, ben moi je suis le gars qui va analyser la compagnie puis qui va réaliser ça c'est de la scrap, ça lève parce qu'ils font de la promotion, ils poussent leur action puis c'est une question de temps avant que ça tombe là. Fait que 99% de mes trades c'est tout des shorts, ouais.
Mais c'est quoi que tu... Est-ce qu'il y a des types de promotions en particulier que tu sais que ces compagnies-là elles ont tendance à faire ça? Je sais pas, peut-être parce que quand on parle de publicité, de promotion, de marketing, il y a plusieurs façons de faire, mais en as-tu quelques-uns que t'es comme ah, 90% du temps, quand ils font ce type de promotion-là, tu sais que sont juste en train de hype.
Ben, c'est ce que j'aime un peu du marché boursier. Eux, ils n'ont pas le choix d'être à nu. Fait qu'il y a des sites sur lesquels que tu vas aller regarder puis tu vas voir la compagnie est dans les dettes, la compagnie n'a jamais fait de profit. Ils ont deux employés temps plein puis le CEO, il sortir un salaire de 800 000 par année. Fait que là, tu te dis, t'sais, la compagnie fait pas d'argent, mais le CEO, il est en train de tout siphonner, on dirait, les profits qu'ils font. Tu peux tout de suite voir que la compagnie, elle tient pas la route. Puis là, tout d'un coup, ils viennent de faire une augmentation de leur prix de 200-300%. Fait que c'est de la logique. Après ça, c'est l'offre et la demande. Fait que tu te dis, bon, là, tu as un prix qui vient d'augmenter de 200% en dedans d'une journée, en dedans de deux jours. Est-ce qu'il va y avoir assez d'acheteurs pour soutenir le nouveau prix? Puis la réalité, c'est que c'est non. Fait qu'après ça, il y a des stratégies sur comment évaluer le changement du momentum, puis de voir que, bon, c'est la fin, le pompe il est fini, le hype il est fini, puis ça plante. Un des vraiment très connus, c'était GameStop, AMC. Mm-hmm. On a fait une petite fortune sur GameStop, AMC. C'était une question de temps avant que ça tourne de bord, puis qu'il y a des signes que lorsque c'est en train de monter, il y a des signes qui apparaissent sur lesquels que tu peux regarder, puis tu peux dire, le backside s'en vient. Là.
Mm-hmm. Ouais. Est-ce que verbalement, tu es capable de dire un peu c'est quoi les types de signes que tu vois sur le marché?
C'est sûr que nous, dans le marché, on a un outil qui s'appelle le Level 2. Puis là, tu peux voir le nombre de commandes rentrer et sortir. Fait que non seulement tu vois les commandes en attente, mais au passage, tu les vois qui passent sur le Time of Sale.
C'est comme un order book, non? Mm-hmm.
Ça se peut. C'est ça que vous utilisez en crypto? Ouais.
Fait que c'est un order book et tu vois
toutes les transactions.
Dans le fond. Ah, super. Fait que nous, on a ça qui s'appelle le Level 2 ou Market Depth dans certains brokers. Puis, une des stratégies, c'est souvent si tu vas voir qu'il va y avoir moins de monde sur le bid, beaucoup sur le ask. Puis après ça, tout ce que j'ai fait, je l'ai mis sur des feuilles Excel que j'ai montées du data là, à travers des milliers et des milliers et des milliers d'exemples. Puis je sais statistiquement c'est quoi la poussée réalistique, c'est quoi, combien de temps est-ce qu'ils vont durer en haut pour après ça, quoi regarder comme signe, comme le ask qui se remplit, le bid qui devient de plus en plus mince. Souvent, tu vas avoir une chandelle qui va se faire écraser, puis dans cette chandelle-là, va avoir beaucoup de volume. Fait que je prends beaucoup avantage des acheteurs qui sont coincés dans des chandelles, puis que quand que ça va remonter, ben eux, ils veulent sortir, tu sais. Un trader amateur, sa première réaction quand il va être négatif, sa première réaction qu'il va vouloir faire, c'est break-even la seconde que ça remonte. Mais quand tu sais que dans une chandelle, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont coincés, puis que toi, tu cherches le top, puis que ça fait déjà 300% que ça roule ça, et dans la chandelle, c'est là où est-ce que tu regardes le volume, puis il y a énormément de volume dans cette chandelle-là, tu peux savoir qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont coincés, tu peux prendre ça comme le top. Là. Fait qu'il y a beaucoup de petits trucs que tu cumules tout ça, tu es capable de trouver la fin du momentum, puis après ça, ben tu capitalises sur la descente. Là.
Fait que tu attends qu'il se fasse squeeze.
C'est sûr qu'un squeeze, ça nous aide. Parce que c'est un mouvement dans le chart qui est extrêmement émotionnel puis pas très rationnel. Fait qu'à la fin, tu sais, un short squeeze, c'est quoi essentiellement? C'est qu'il y a trop de short sellers qui se font avoir leur propre game. Puis ça fait monter le stock extrêmement vite. Fait que quand tu places un short, ce que tu demandes au marché, c'est une vente. Puis quand tu veux sortir, qui s'appelle un cover, ce que tu demandes au marché, c'est un buy. Fait que tu rachètes le stock. Fait que quand tu es un short seller, tu vends tes actions en premier, tu les rachètes par après. Les gens ne comprennent pas qu'un short squeeze, c'est principalement nourri par les short sellers qui veulent sortir de du stock et créer des buy orders pour le faire monter. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que quand tu penses à qu'est-ce qui forme un short squeeze, tu vas réaliser que c'est de l'air parce que c'est pas des gens qui rentrent nécessairement dans le stock, c'est des gens qui sortent du stock en créant un buy order. Mm. Fait que vu que tu comprends l'essence d'un squeeze, tu sais que c'est de l'air qui le tient. Fait que quand c'est de l'air qui le tient, c'est une question de temps avant qu'il retombe aussi aussi bas qu'il est monté. Là.
Super belle explication.
Ouais, vraiment.
Merci. Non,
merci.
Et avant ça, c'est sûr qu'on a parlé directement de la bourse, des techniques, des stratégies, etc. Toi, de ton côté, c'était quoi que tu faisais auparavant, puis c'est quoi qui t'a intéressé à rentrer dans la bourse?
Au début, j'avais étudié pour être pilote d'avion. J'ai fait mes études, j'ai mis 63 000 dans mes études pour devenir pilote d'avion, puis après ça, réaliser que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Fait que quand les gens ils me parlent puis ils regardent les études en tant que telles puis qu'ils ont peur d'investir, moi je veux dire j'ai mis 63 000 dans mes études pour finalement tourner de bord, ça fait partie de la game. Tu sais, des fois tu sais pas que t'aimes quelque chose, tu t'embarques dans quelque chose puis c'est plus tard que tu le réalises. Puis quand ça c'est arrivé, bon, j'avais peut-être 19-20 ans. Après ça, j'ai commencé à faire un peu de business on the side. Fait que j'ai fait des petites business par-ci par-là. J'ai monté un petit capital. Il y a beaucoup de gens qui démarrent dans le trading parce qu'ils veulent monter du capital. Puis le trading, à la base, c'est une game qui est souvent faite pour ceux qui ont déjà de l'argent puis qui veulent la faire fructifier. C'est très, très rare que tu vas voir des gens partir avec 100$ puis l'amener à 100 000. T'en as des cas comme ça, sauf qu'ils enlèvent plein de détails à leur histoire, dont un, probablement que tu l'as fait dans un bull market où est-ce que tout montait. Probablement que c'était un marché extrêmement chaud. Puis après ça, probablement que le gars, il savait déjà qu'est-ce qu'il faisait. T'sais. Fait que basé là-dessus, c'est très difficile de faire grossir, disons, 100 $ en 100 000. C'est des histoires un peu féeriques. C'est très.
Ouais, c'est pour ça que les gens qui veulent en faire de l'argent avec le trading rendu la fin, propre firme. Plus un prop firm, firm ouais. Ça te fait passer un examen. Fait que t'es censé être capable.
Je suis le chat dans la gorge.
Plusieurs heures à parler, ça va te vider. Hein.
Et t'es censé pouvoir répliquer la même chose parce que si t'as passé l'examen, t'es censé pouvoir respecter les mêmes règles. Mm. Alors le prop firm devient une.
Mais le prop firm va pas te donner 100 $ à trader, il va te donner du capital. Fait que ça revient à ce que je disais de dire. Faut s'enlever l'idée, puis c'est un peu comme un mythe dans l'industrie où est-ce que, OK, ben j'ai 200-300$ à mon nom, je vais flipper ça, puis je vais en vivre après. Il y a des techniques sur lesquelles que quelqu'un qui est compétent est capable de le faire, mais quelqu'un de nouveau qui n'a jamais vu les saisons dans le marché, quelqu'un qui a jamais pris de cours à la base, puis qui se lance là-dedans avec une couple de 100$, tes chances de réussir là, sont zéro plus de bord.
Le bull run, ça fait beaucoup de millionnaires imbéciles.
Puis ils perdent souvent.
Ils perdent aussi vite.
Ils perdent souvent.
Ça, ben, tu vois, ça, ils sont millionnaires. Le bull run termine, il retourne sur le marché du travail.
Moi, à chaque fois, là, parce qu'on a vu celui de 2017, puis là, celui de 2021, parce qu'on était là dans les deux. 2017, ça a été celui que j'ai appris. Alors, le dernier, j'avais déjà... D'ailleurs, j'allais me faire un tatou. pas relié à la crypto, mais comme pour me rappeler des erreurs passées, des leçons que ça m'a enseigné.
Oui.
Et justement, ben, le bull run de 2007, j'ai appris. Celui de 2021, ben, c'était ça. Les erreurs que j'ai commises et ce que j'ai appris. Et c'est fou le nombre de personnes pendant le bull run, je leur disais, non, tu dois venir apprendre. Même si tu apprends pas avec nous, tu dois venir apprendre avec quelqu'un. Je m'en fous ce que tu es en train de trader, crypto, stock, whatever. Que tu viennes apprendre avec nous, avec quelqu'un d'autre, je m'en fous, mais tu dois apprendre. Surtout en crypto, les gens, ils rentrent juste pour du hype.
Ouais.
Et le nombre de personnes, là, yo Sam, j'ai pas besoin, moi je suis rentré dans tel ICO en 2020, puis là maintenant on est de chasse. Mon 10 000$ est rendu à comme 500, 600 000, mais je vous promets, toutes ces personnes-là, là, quand je leur ai réécrit là pendant le buin, toutes ces personnes-là, toutes sans exception, genre littéralement comme, il y a même pas comme, j'avais comme une quinzaine de personnes comme ça, j'en ai pas un seul là qui en gain, sont tous en perte là. La plupart ont vendu en perte. Là. Si ils étaient rentrés avec 10 000, ils sont à 8 000 maintenant. Ils ont vendu tous. J'en ai pas un sur 15. Genre 100% sont en perte. Et le plus drôle, c'est que 2/3 ont trop d'ego pour assumer qu'ils ont fait une erreur et apprendre. Ils disent la crypto, c'est de la merde. Est-ce que c'est la crypto la merde ou c'est toi? Non, mais tu sais, à un moment, il faut se dire les choses directement. Puis il y a 1/3 qui sont comme, ouais, tu sais quoi, j'ai fait des erreurs, mais je réalise que c'est un marché que tu peux faire de l'argent. Là, je vais apprendre bien puis le faire de la bonne façon. Mais ça, c'est 1/3. L'autre 70%, c'est pas leur faute.
Mais c'est que souvent, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent être un trader avec un investisseur.
Exact.
Puis souvent, il y a beaucoup de traders qui rentrent dans un trade en pensant que ça va être un trade, ça va pas de leur bord, puis là, tout d'un coup, ils deviennent un investisseur. Puis il faut que tu te mettes la ligne dans le sable en disant est-ce que toi, tu es un investisseur ou un trader. Puis un trader, ça a une rentrée, ça a une sortie. Fait que souvent, on le voit, puis on l'a vu, GameStop, ça a été un de ceux-là qui a fait beaucoup de millionnaires en dedans de quelques jours, quelques semaines, puis après ça, puis on
sont tout même quelques heures,
ça,
non?
Quelques heures,
à un moment donné.
Ça a redescendu, puis ils ont tout perdu, tu sais. Puis ça, c'est parce que les gens rentrent dans le marché avec une idée de « je vais prendre un trade », puis là, le trade là, a dépassé leur capacité de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, puis ils savent pas quand sortir, fait que quelqu'un, puis il y a une phrase que quand j'étudiais en business, qui m'a beaucoup enligné dans la vie, puis surtout dans le trading, parce que tu vois beaucoup la psychologie de masse dans le trading, c'est « confuse people do nothing ». Fait que les gens qui sont confus ne font rien. Puis ça, tu peux le voir, là, t'en as parlé, des gens qui ont mis 10 000 dans certains coins, qui sont allés jusqu'à 500 000, mais les gens qui sont confus par rapport à c'est quoi leurs étapes à faire, ils font rien, fait que par défaut, ils font rien, fait qu'ils ont « write up », puis après ça, ils ont « write down ». Ils n'ont pas été capables de prendre action sur leur connaissance parce qu'ils étaient confus, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils faisaient.
Ils n'avaient pas de plan.
Pas de plan. Confuse people do nothing, tu sais.
Moi, j'ai une question, c'est quoi qui a fait en sorte que tu as décidé d'aller vers le trading stock des petites compagnies versus comme on entend plus traditionnellement le monde qui vont trader Alibaba, qui vont trader Apple, puis
quand j'ai commencé à faire mes recherches dans le domaine du trading, j'ai fait mes recherches en termes de c'est où que je vais gagner le plus souvent. Puis c'est quoi le domaine que je comprends le mieux. T'sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le trading, pas parce qu'ils ont étudié le domaine, mais parce que leur chum, c'est ça qu'ils font aussi. Fait que si ton chum, il trade le Forex puis il t'a intéressé, toi, tu vas commencer à trader le Forex par défaut ou potentiellement parce que c'est le premier vidéo YouTube que tu as écouté, fait que c'est ça que tu as commencé à trader. Moi, j'ai étudié le Forex, j'ai étudié la crypto, j'ai étudié les blue checks avec les grosses compagnies. Puis quand je faisais mes études, je regardais le degré d'implication, de compréhension de qu'est-ce que je devais trader. Puis qu'est-ce qui m'a juste allumé avec les petites compagnies, c'est que c'est tellement des petites compagnies entre 1$ et 10$, c'est qu'il y avait ça des small caps. C'est que les algorithmes ne rentrent pas là-dedans, les hedge funds, les banques ne rentrent pas là-dedans, donc ils sont tellement petites qu'ils les laissent tranquilles. Fait que qui reste à trader ça, c'est monsieur, madame, tout le monde. Puis monsieur, madame, tout le monde sont plus faciles à prédire, sont plus faciles à voir la psychologie de masse, puis quand est-ce qu'ils ont peur, quand est-ce qu'ils sont greedy, quand est-ce que la panique embarque, moins de manipulation. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça. T'sais, il y a un mauvais côté à qu'est-ce que je trade, c'est qu'un jour tu vas caper. C'est pas tous les jours que tu peux rentrer avec une position d'un million. Il n'y a pas le volume pour ça. Okay? Fait que tu vas voir souvent dans mon domaine là, des gens qui ont parti avec quelques milliers, se sont rendus dans les 100, voire un million, mais après ça, ils ont de la misère à passer de 1 million à 10, 20 millions parce qu'il y a un cap. Right? Tu peux pas, mettons que tu fais x10 sur un compte, mettons, tu peux être capable de faire de 10 000 à 100 000, mais après ça, de 100 000 après ça à 1 million, ça se fait avec le travail, mais de 1 million à 10 millions, tu n'as pas le volume nécessaire pour le faire. Il y a quelques opportunités par année qui vont te donner la place pour rentrer ce type de volume-là. Fait que je savais qu'éventuellement, j'allais caper en termes de revenus, mais vu que je voyais pour moi une facilité de lire qu'est-ce qui se passait parce que t'as pas d'algorithme qui trade ça, t'as pas de banque qui trade ça. C'était comme jouer aux échecs contre un enfant. Là. Ouais. T'es contrairement à, surtout si tu veux être un trader, selon moi, ta job numéro un, c'est de un, comprendre qu'est-ce que tu trades. Mm. Si toi, tu comprends bien la crypto, trade la crypto. Si tu comprends comment est-ce que c'est mis en marché, comment est-ce qu'ils font leur promotion, étudie ça. Si après ça, tu veux trader le Forex, bien étudie l'économie mondiale, étudie des choses qui vont faire que tu vas comprendre qu'est-ce qui bouge les devises. Fait que beaucoup de gens trade certaines choses sans comprendre leur domaine. Puis quand j'ai commencé avec les petites compagnies, moi, je voulais pas trader contre des gens qui étaient, comment je pourrais dire, financièrement intelligent. Je voulais trader contre des gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, puis c'était plus facile pour moi d'étudier le domaine, puis après ça, faire des stratégies qui vont contre eux autres. Là. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi je suis short. La majorité d'eux, ils vont tous à la hausse, donc long. Mm-hmm. Puis quand tu réalises que si 95% des gens à 98% des gens perdent de l'argent, puis qu'ils go long, ben, toi, go short. C'est à la fin de la journée.
La majorité des gens psychologiquement sont poussés à
acheter.
À long, tout ce qui est vert.
Ah ouais, parce que quand on te parle de stock à la base, c'est que la première idée qui te vient en tête, je vais acheter des stocks. Mm-hmm. C'est la première idée qui
crypto
vient en tête.
Crypto aussi, fait que la plupart des
gens. À short ou à crypto, c'est la même chose.
Les gens ne savent pas ça, mais les hedge funds en général placent des investissements long terme sur la hausse, mais leur trade, c'est à la baisse. C'est plus facile de prédire le downfall d'une compagnie que la montée d'une compagnie. Parce que quand tu regardes un prix en général, là, fait que ça soit la crypto, Forex, ça fonctionne un peu moins comme ça, mais n'importe quoi qui est achetable, là, fait que c'est la crypto, un action, un stock. Comme que le noir, c'est l'absence de la lumière, puis que le froid, c'est l'absence du chaud, mais sans l'absence du momentum, le prix de quelque chose, qu'est-ce que ça fait? Ça descend. Donc, c'est plus difficile de créer du momentum que de l'enlever. Donc, c'est pour ça que quand tu regardes à la bourse, les gens regardent pas ça, mais il y a plus de compagnies qui descendent qu'il y en a qui montent. Parce que c'est plus difficile de créer du momentum que de l'enlever.
Fait, ouais, le momentum, il s'en
fait très puissant.
Mais c'est vrai, tu sais, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui étudient le domaine. Moi, je l'ai étudié, puis j'ai fait des montées, j'appelle ça statifié, fait que j'ai statifié le marché, puis j'ai réalisé sur les 3000 plus compagnies qu'il y a à la bourse, combien il y en a qui montent, combien il y en a qui descendent. 80% d'eux autres descendent, mais pourquoi est-ce qu'on irait long quand 80% d'eux autres descendent? Quand je regarde ma stratégie, puis que la stratégie que j'ai mis en place, le win rate était 85% annuellement. Fait que j'ai dit, pourquoi est-ce que tu voudrais acheter quelque chose que 85% annuellement sur 100 plus pump and dump qu'ils font annuellement, là, ils finissent dans le rouge. Fait que c'est de regarder les data. Je ne suis pas devenu un short seller de ces compagnies-là parce que ça me tentait d'être différent des autres puis look cool on a podcast. Là, c'est pas le but. Là. Le but, c'était hey, qu'est-ce que les data me disent? Puis le data me dit ces compagnies-là, ils pompent pendant une journée puis ensuite de ça, c'est fini. Là. Fait que toute la stratégie était basée sur les data que j'ai ramassés. Là, le data que j'ai ramassé.
Excusez.
Nice.
Ça fait du sens.
Ouais. Puis tu t'intéresses, j'imagine que tu investis aussi dans d'autres choses peut-être à long terme. Là, tu trades. Tu investis dans d'autres choses à long terme ou tu fais
vraiment te concentrer sur... J'aime mieux l'immobilier à long terme. Je trouve que c'est plus stable. Puis le quand je regarde les composantes qui font que ton immobilier va monter contrairement à une compagnie, qu'est-ce qu'une compagnie doit faire pour que ça monte, les revenus, le marché en général. Tu fais confiance à des gens que tu connais pas, de eux faire croître leur compagnie. Puis en plus de ça, c'est pas juste qu'il faut que tu fasses confiance à eux, il faut que tu fasses confiance au public d'aimer la compagnie aussi. C'est l'une des meilleures compagnies que je peux vous montrer, c'est Lion Electric. Je sais pas si vous connaissez LEV. Fait que Lion Electric, qui c'est à Saint-Jérôme, compagnie qui font des véhicules électriques, qui ont des contrats avec le gouvernement. Ils sont en train de changer tous les autobus scolaires pour des autobus électriques. Ouais, super la belle compagnie. On paper, là, sur papier, là, tu dirais cette compagnie-là est en train de flyer. Puis depuis qu'elle est rentrée sur le Nasdaq, elle fait juste tomber. Elle a tombé de 28 et rendue à 2 piastres. Puis la raison la raison est que c'est une compagnie du Québec, c'est une compagnie qui aujourd'hui est sur le Nasdaq, qui est américain. Les Américains, là, ils s'en foutent d'une compagnie de Saint-Jérôme. Là. Comme eux autres, là, ils veulent Tesla, tu comprends? Fait qu'ils s'en foutent, même si la compagnie fait de l'argent puis ont des contrats, si le peuple ne l'aime pas, il ne va pas monter. Puis il faut dissocier une compagnie puis son action. Ils peuvent s'influencer, mais ils sont déconnectés. Mm-hmm. Moi, j'ai vu des compagnies comme Hertz qui ont déclaré bankruptcy, puis le stock a monté 200%. Puis j'ai vu des compagnies comme Lyon LEV qui sont super parfaits sur papier, puis que le stock fait juste descendre. Fait que c'est le peuple qui contrôle le stock à la fin de la journée, puis la compagnie, elle, ben, elle fait ce que la compagnie fait, là. Mais le peuple contrôle le stock, comme le peuple contrôle le coin à la fin de la journée. T'sais, si les gens ne l'aiment pas, là, ça ne montre pas, là. Fait que j'ai essayé de faire des investissements à long terme, mais je pense que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai gaspillé plus de temps et j'ai perdu des opportunités accumuler de l'argent à travers qu'est-ce que je fais, et l'argent dormait au lieu d'être en train de travailler. Fait que j'ai arrêté de le faire. J'aime mieux l'immobilier pour ça. Si je veux mettre de l'argent à long terme, j'aime mieux l'immobilier que la bourse en tant que telle. Mais pour trader, il n'y a rien qui bat activement trader ton argent.
Mm-hmm. Fait que tu trades, tu achètes de l'immobilier, puis dans le sous-sol, tu caches des lingots d'or.
Exactement. Non,
c'est vraiment important ce qu'il vient de dire, parce qu'en crypto, c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai commencé avec le Forex au début. Après, j'ai transféré vers la crypto. Je fais les deux. J'investis et je trade. Le trading, je peux le faire 24 heures sur 7, ça ne dérange pas. Mais au niveau d'investissement, sur un cycle de 4 ans, tu as environ un an et demi de bull run sur lequel tu peux te baser à investir ton portfolio. Mais après que le bull run est fini, tu fais quoi pendant 2 ans et demi? Ton portfolio, il va juste dormir. Tu peux le stake, tu peux donner de la liquidité au niveau de DeFi, mais il faut que tu trouves d'autres moyens à investir à la long terme, sinon le portfolio va juste dormir.
C'est ça.
Donc...
c'est que tu perds, tu sais, puis aujourd'hui, je regarde beaucoup, est-ce que mon argent est en train de travailler au meilleur de sa capacité ou justement est en train de dormir, parce que tu sais, on sait avec l'inflation, l'argent elle-même perd de la valeur. Fait que si ton argent est en train de rester à rien faire, puis moi, je sais que quand il y a un beau pump qui est en train de se présenter, je peux aller me tirer 25 à 30 puis que j'ai 70-100 000 coincés dans une compagnie qui est flat depuis 3 mois parce que les autres font rien. C'est sûr que je préfère qu'elles soient en train de travailler. Là. Ouais. L'immobilier, c'est un autre game. T'sais, je suis rentré dans l'immobilier surtout pour voir un peu puis avoir des sujets de conversation avec des gens qui sont dans l'immobilier. T'sais, beaucoup de gens aiment porter une opinion. Mais souvent, les gens qui portent une opinion sont pas dans le domaine. Puis ils ont entendu quelque chose de quelqu'un, puis quelqu'un l'a entendu de quelqu'un d'autre, puis ça, c'est devenu leur opinion. Moi, je suis un gars que, dans la vie, je forme mon opinion en le faisant moi-même. T'sais, quelqu'un m'a dit, ah, tu devrais te lancer dans un chalet Airbnb, c'est super rentable. Mais j'ai dit, écoute, je vais le voir par moi-même. Puis je l'ai fait par moi-même. Puis après ça, j'ai bâti mes résultats, puis j'ai bâti mon opinion sur ce que j'étais capable de voir qui était tangible, puis les yeux auxquels que je faisais confiance qui étaient les miens. Beaucoup de gens, ils ont peur de se lancer dans quelque chose parce que quelqu'un a dit quelque chose, puis par défaut, ils se sont construit une opinion, mais c'est totalement faux, là. Puis ça, il y en a beaucoup en plus, là, sur le web, là, faut faire attention, là, les Instagram, les TikTok, les ci, puis les ça, là, de wannabes, là, qui disent des affaires, puis après ça, tu le prends pour du cash, mais là, finalement, le gars, il a jamais été dans le real estate, tu sais. Faut faire attention à ça, là.
Pour revenir sur ce que tu disais sur l'investissement, puis le point que tu as amené avec le portfolio de crypto, c'est pour ça que je pense que côté crypto, puis ça va déplaire à la plupart des gens parce qu'ils sont émotionnels, puis ils aiment crier HODL to the moon. Mais c'est de faire du spot trading. Le principe de la crypto, c'est d'être capable de ne pas être émotionnel et de faire du spot trading. Parce que tout le monde a envie de crier HODL, puis Bitcoin à 1 million. Comme là, il y a un doute qui a fait l'ancien CTO de Twitter puis de Coinbase qui a fait 2 paris d'1 million de dollars comme quoi Bitcoin va à 1 million en juin. Bitch, what? Qu'est-ce que tu me dis là? Ils sont où tes données? Genre, comme ça fait absolument aucun sens. Il faudrait que toutes les compagnies du monde, les plus grosses compagnies du monde, mettent 20% de ce qu'ils ont dans l'or dans Bitcoin pour qu'il aille à 1 million. D'ici juin. Hein, je veux dire, c'est pas genre d'ici 5 ans.
Pas de pression.
Pas de pression d'ici juin. Et tu regardes ce gars-là, ancien CTO de Coinbase, le truc qui défonce le plus tout le monde pour acheter de la crypto, c'est genre, tu veux te faire défoncer en achetant de la crypto, tu vas sur Coinbase, c'est comme le spot où tu veux pas aller. Puis Twitter, qui ont censuré tout le monde pendant des années, en tout cas. Ouais. Alors, tu regardes ça, puis t'es comme, mais les gens sont en train de devenir émotionnels par rapport à ça. Mm-hmm. Et ils regardent plus le prix, ils regardent plus rien, ils veulent juste acheter du Bitcoin parce que le dude, il a fait ça. Il a fait ce pari. Et moi, c'est pour ça que j'utilise toujours la règle du 70-30 et je fais du spot trading. Si j'achète Bitcoin à 15 000, ce que j'ai fait autour de 17-18 000, et qu'il s'est rendu à 30 000, qu'il a fait 100%, et qu'il touche un gros niveau avec de la potentielle vente, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du profit. Mais les gens sont trop concentrés sur ce côté émotionnel de « Non, mais imagine, ça va à 45 000, 100 000, to the moon, HODL. » Puis ils se créent ce mouvement-là, tu sais, le même mouvement que pourquoi tu veux tout le monde veut un téléphone Apple parce qu'ils ont brand ça à un autre niveau puis tu te sens dans la communauté. Pourquoi tu veux un Louis Vuitton? Parce que, yo, t'es cool. Mais là, c'est comme, yo, moi aussi, je veux être cool, fait que je vais HODL. Parce que je suis cool.
Puis là, t'es HODL à moins 80% dans ton portfolio.
Exact. Puis c'est ce que les gens... Je comprends pas ce mindset-là. Il faut que ça change. Je suis rentré à 17-18 000. Est-ce que je suis rentré à 15-16? Non, 17-18. Mais je m'en bats les couilles qu'il est dans à 15-16 parce que mon niveau d'entrée était 17-18. Et là, maintenant, il vient toucher 30. Ben, presque 30, 29. 80%. Grosse zone de potentiel.
C'est énorme, 80% sur un trade.
Énorme.
C'est énorme.
Puis ça c'est pas un trade avec du levier, c'est vraiment c'est
cash cash.
Ouais, t'achètes. Mais moi, ce que je fais à ce moment-là, on va dire 100% pour que ça soit plus simple, là, j'ai acheté un Bitcoin, il fait 100%, 70% je vends, l'autre 30%, si c'est vraiment un projet dans lequel je crois comme Bitcoin, ça je peux le mettre dans un ledger ou un wallet et ça je le HODL pour toujours. Sauf que ce qu'il faut réaliser, c'est que ce 30% là, c'est juste du profit, là. Si tu viens de mettre 10 000, ton 10 000 est devenu 20 000. Je viens de retirer genre 14 000. Fait que je viens de reprendre mon investissement de base plus 4 000 $ de profit. Et le 6 000 qui reste, là oui, comme dans cette situation-là, je vais l'envoyer dans un ledger, puis là je le check plus. Mais là je le check plus pour genre 50 ans. Ce kind of check plus.
Puis ça devient un investissement.
Et là je le regarde plus, et là je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as sécurisé ton investissement de base parce que tu as break-even, tu as repris ton cash. Tu as repris ton cash, tu as pris du profit. Puis le reste du profit, ça, tu le
tiens. C'est des profits qui font plus de profit.
Ouais, puis ça descend, ça monte. C'est du profit qui descend ou qui monte. Puis tu sais dans ta tête que c'est là pour X nombre d'années, peu importe ce qui se passe. C'est avec la vision que ça reste là pour 50 ans. Que ça aille à 0 ou à 1 million, on s'en fout. C'est avec la vision que ce profit-là, il allait rester là 50 ans. No matter what. Puis c'est juste, dans le meilleur des cas, t'auras fait plein de profit. Dans le pire des cas, t'auras fait moins de profit. Mais tu peux pas chialer pour avoir fait du profit. Et ça, je pense, c'est quelque chose que dans la crypto, c'est le point que tu soulevais justement aussi côté stock, mais j'ai l'année côté crypto, c'est de réaliser ça. Les gens sont juste trop émotionnels là. Mm-hmm. Genre, ça fait aucun sens que tu es à plus de 100% et tu prends pas de profit.
Non, exactement. Les gens, ils tombent en amour avec... avec la technologie, puis je l'ai vu, moi je le vois beaucoup là, dans les forums, puis c'est pour ça que il y a du bien à avoir une communauté de trading, puis il y a du mal. Moi, mes meilleures années de trading, c'est quand j'avais pas ma communauté, parce que j'étais pas influencé par ma communauté, j'avais juste moi puis les écrans. Puis d'avoir la capacité de trader seul, c'est énorme, là, parce que ton cerveau, ton œil est pas influencé aussi par la majorité du bruit. Là, il y a une raison pourquoi Warren Buffett, il habite pas sur Wall Street. Là. Il est très, 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 très loin du bruit de Wall Street pour pas que son œil puis sa façon de réfléchir puis sa façon de voir les choses soit influencée par le brouhaha là, du hype. Là. Fait que il y a une richesse à trader seul. T'sais. C'est sûr que moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. Une année, c'est le fun d'avoir une communauté. Mais définitivement, là, de rester loin des forums où est-ce que t'as 50 000 personnes qui disent des affaires différentes. Puis c'est tout le temps facile de dire « hold to the moon » quand t'as 100 piastres dans ta crypto. Là. Mais si t'as 100 000, fais-moi confiance. T'en fais 100% c'est ton argent. La première chose que tu vas me dire, c'est pas hold to the moon. Tu vas dire yo, laisse-moi prendre mon argent. Là.
Sinon, t'es rendu vraiment émotionnel à ça.
Tu sais, moi, j'ai pas vu grand personne dans ma vie savoir qu'est-ce qu'il faisait puis de tenir passer 100%. Tu sais, je pense que un trader qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui est pas un investisseur, qui est littéralement quelqu'un qui rentre et ça avec l'intention de faire du profit et de sortir, si tu dépasses 100%, là, c'est soit que t'avais tellement une petite position que tu réalises pas le trade que tu viens de faire, ça n'a pas un impact sur ta vie. Deux, t'es complètement naïf puis tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Puis trois, c'est que t'as oublié le password de ton wallet puis t'es prêt à rentrer. Parce qu'un trader qui sait qu'est-ce qu'il fait, passer 100%, c'est tu réalises statistiquement, qu'est-ce que ça prend pour faire un trade de 100% puis le nombre d'opportunités qui se rendent vraiment à 100%, pas en investissement, là, je parle que toi, tu veux placer un trade, tu veux devenir un trader, tu as une idée de rentrée, une idée de sortie puis tu vises pour un 100%, tu es naïf. Là, parce que statistiquement, les odds, ils sont contre toi. Non. Les odds, ils sont avec toi quand tu cherches de l'argent qui est prévisible, 15, 20, 30, 100. Combien de fois est-ce que tu veux? Regarde le marché annuellement, là. Puis juste ceux qui vont faire le travail vont être capables de le réaliser par eux-mêmes parce que les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres mentent pas. Fait que fais le travail puis tu vas le voir par toi-même. Calcule le nombre d'opportunités qui ont fait 100% que tu as été capable de capitaliser dessus dans une année, puis tu vas dire
Faire 100%, même avec un ratio risque-récompense, si tu fais du 1 pour 10, tu as besoin de risquer 10% de ton portfolio pour pouvoir faire ça. Mm-hmm. Nous, de notre côté, on preach toujours de ne jamais dépasser un risque de 2% sur un trade.
Mm-hmm. Il y a plusieurs. 0,5%
sur voilà, il y a des gens qui prennent 0,25, ouais. 0,5, ouais. 1%, indépendamment aussi de la grandeur de ton compte. Si on parle de 10 pour 1, récompense au risque, ça veut dire sur chaque 10$, tu as le potentiel de gagner 100. Si quelqu'un fait 100%, c'est parce qu'il a risqué 10% de son capital.
Bon, c'est insane. Pas de risk management.
Puis c'est drôle parce que quand on parle de risque, il y a beaucoup de gens, de traders, d'investisseurs ou traders-investisseurs, de gens qui vont dire « Ouais, moi, j'accepte le risque. Moi, j'aime le risque et tout. » Moi, ça me fait toujours rigoler parce que moi, personnellement, je déteste le risque. Ça me fait chier. Je l'aime pas. Si tu pouvais me donner 0% de risque, 50% de gain, je serais tellement content. Mais je sais que c'est pas possible parce que tu ne peux pas gagner si tu ne peux pas perdre. De la même façon que je peux pas traverser la rue à la lumière verte. Si je traverse à la lumière verte, ça veut dire qu'il y a une lumière rouge aussi. Fait qu'il y a, pour que tu gagnes quelque chose, il faut toujours qu'il y ait une potentielle perte. Tu sais, tu vas parler à quelqu'un dans l'autobus, peut-être t'as dit non, dégage. Tu sais, je veux dire, il y a toujours cette perte pour pouvoir avoir ce gain. Mais c'est drôle parce que les gens sont tellement fiers de dire « Moi, j'accepte le risque, j'aime le risque. » Fuck non, je déteste le risque, je l'aime pas. Je le comprends et je sais que j'ai besoin de faire avec. Mais merde, je l'aime pas.
Mais moi, je pense que les gens qui disent ça, j'accepte le risque, j'aime le risque, c'est qu'ils n'ont pas vraiment du risque qui sont importants dans le trade.
Moi, 0,5%.
Parce que quand tu as une vraie position sur laquelle que tu as du size, non, yeah. T'aimes pas le risque. Non, non, non.
Fait moi, que, quand je me montre à 0,5, je suis comme... Si ça le touche, ça le touche, je l'ai accepté, mais fuck, je t'aime pas.
les gens aiment le risque quand que c'est petit risque.
Exact.
C'est petit risque.
Puis c'est fort ce que tu as dit côté communauté puis forum, puis c'est quelque chose à faire attention. C'est important quand tu es dans une communauté d'être dans une bonne communauté privée avec certains individus qui ont le bon mindset. Mm-hmm. Là, quand tu es dans une bonne communauté privée avec certains individus qui ont le bon mindset, ça, comme mastermind, ça devient extrêmement puissant. Mais si tu es dans l'opposé, ça devient extrêmement le contraire de puissant.
Ouais, mais tu l'as dit, c'est une communauté souvent privée. T'sais, moi, je faisais plus référence à les Reddit, les Reddit, que tu as accès à tout le monde. Tu sais pas qui est-ce que Martin au Nicaragua qui écrit quelque chose que toi tu penses qui fait du sens.
Probablement un faux compte aussi.
Moi, je faisais plus référence à ça que tu sais, il y a des vraies belles communautés
Groupe
sur lesquelles que
20 000 personnes.
Ouais. Non, c'est ça.
T'es comme
God. Mais je les vois tout le temps là. Moi, tu sais, quand nous on veut rire dans notre groupe parce qu'on short toutes ces pompes là, tu sais, on dit on va-tu rire, fait qu'on va sur Stock Twits, puis tu regardes le nombre de personnes qui ont acheté le stock que nous on a short, puis tes voix là, ah c'est sûr que ça monte, ils ont promis des contrats, puis nous on est short, puis ça plante à la fin de la journée, puis c'est une bunch de gens là qui savent pas de quoi ils parlent.
Moi à un moment j'avais créé un indicateur qui s'appelait le GLSI. C'était un indicateur sentimental. Je regardais les gens qui se connectaient à mon live où on analysait le marché. Et quand on était en plein bull run, que tout était en train de pomper, j'avais genre 300 personnes sur le live. Puis quand on était en train de corriger, on avait genre 20 personnes sur le live. Puis je te promets, il y avait, quand on était environ moins 80% de gens sur le live, à chaque fois, on tombait dans des zones d'accumulation monumentale.
C'est normal.
On a fini par avoir ce ratio où on rigolait. On était comme moins 60, moins 70%. Puis on disait GLSI. Puis les gens étaient comme, c'est quoi le GLSI? Mais on le disait pas. Fallait que tu aies assez longtemps pour savoir. Puis là, moins 80%. Puis là, c'était les mêmes 20 personnes pendant 6 mois.
Ouais.
Puis là, bam, ça pompait. Et là, le GLSI remontait 20, 40, 60, 80 personnes, 100 personnes. Fait qu'on avait littéralement créé un indicateur qu'on appelait le GLSI, genre... live sentimental index, genre les gens qui venaient sur le live. Puis c'est fou, mais je te promets, genre ça marche.
C'est la psychologie de masse. Ben oui, c'est sûr que ça marche en passant. Tu sais, il y a un investisseur vraiment connu, lui qui est le plus gros hedge fund à travers le monde, qui s'appelle Ray Dalio.
Yeah.
Puis Ray Dalio, une année, il se faisait.
Ah ouais?
Puis il s'est fait, quand il s'est fait mettre en passant l'entrevue, ils ont dit, quand est-ce que tu penses vendre tes positions? Puis il dit, quand c'est rendu que mon barbier commence à parler des stocks dans lesquels que je suis, c'est parce que c'est le temps de commencer à vendre. T'sais. Fait que tout ça pour dire, les bons moves, les bons trades, c'est souvent de ne pas suivre la masse, puis d'aller au contraire de la masse.
Ça, c'est bien
fait que c'est
la masse.
Pour ça que ton indicateur, c'est normal là, quand tu vois que l'intérêt des gens monte ou c'est peut-être le temps de vendre. T'sais. Fait que ça fait du sens. Puis quand tu étudies la psychologie de masse, tu peux bâtir des stratégies autour de ça. Trader, c'est jouer aux échecs. Là. Tu joues contre un adversaire. Chaque jeu est différent. Chaque adversaire est différent. Que ça soit du forex à la crypto, au stock, tu as des adversaires différents. Il y a de la manipulation dans le stock market qui ne va pas se passer en crypto, puis de la manipulation en crypto qui ne va pas se passer dans le stock market. Puis de la même affaire avec le forex. Il y a des affaires dans le forex que tu ne vas pas voir dans le stock market, puis vice-versa. Là. Fait que de chaque... Que tu rentres dans un milieu ou l'autre, c'est important d'étudier contre qui est-ce que tu joues. Puis si tu ne te dis pas contre qui est-ce que tu joues, ben c'est parce que c'est toi qui vas se faire jouer. Mmh. Puis ça, c'est probablement une des choses que j'ai faites au début. C'est que j'ai, au lieu d'aller étudier, tu sais, les gens, ils étudient les charts. Mmh. Mais t'étudies-tu qu'est-ce qui se passe en arrière du chart? Fait que moi, je suis allé étudier qu'est-ce que les compagnies faisaient comme manipulation pour faire pomper leurs actions. T'sais, une compagnie qui est sur le Nasdaq, ils ont des réglementations comme ils doivent rester en haut de 1$ pendant un certain nombre de temps, sinon ils se font enlever du Nasdaq. Fait que ça, tu comprends que, mettons, la compagnie est à 1$.80 depuis les 6 derniers mois, puis que là, ils sont en train de faire une pompe, c'est pour le manipuler pour qu'ils puissent rester sur le Nasdaq. Souvent, beaucoup d'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est un offering, fait qu'ils vont rajouter des shares dans le marché, puis ça va faire tanker le stock. Mais la majorité des gens, ils n'étudient pas les stratégies que les compagnies font, puis ils font juste étudier les charts. Fait que c'est pour ça qu'ils vont tout le temps être en retard. T'sais, on n'oublie pas, mais les charts, c'est l'information qui est en train de se présenter sur ce que tu vois maintenant. Mais un jeu est souvent placé bien avant ça. Là. Mmh. T'sais, j'ai une vidéo sur mon Instagram où est-ce que tu me vois, je trade, puis mes charts ils ont lâché, puis je trade à l'aveuglette, je vois rien. Fait que la seule chose que je sais, c'est les chiffres qui sont donnés par le level 2, qui est où est-ce que le stock est rendu, mais tu vois plus le chart. Mm-hmm. Puis j'ai pas besoin du chart pour trader parce que je sais statistiquement, il est supposé faire quoi. Puis où est-ce qu'ils sont rendus les acheteurs puis les vendeurs. Puis quand tu comprends ce qui se passe en arrière des rideaux, ben après ça, tu peux mieux lire le rideau. Tu peux mieux lire le chart. Mais si tu passes ton temps juste à lire le chart, mm-hmm. puis tu comprends pas ce qui se passe en arrière, tu vas tout le temps être le dernier à savoir la musique quand est-ce qu'elle arrête. Là.
C'est pour ça que le fondamental,
c'est une grosse partie. Là. C'est une grosse partie. Fait que le lire des charts, ça va te permettre de comprendre qu'est-ce que tu as déjà étudié. Ça va te permettre de confirmer qu'est-ce que tu savais déjà. Moi, quand je rentre dans un trade, j'ai déjà placé ce que je sais qui va arriver ou ce que je sais statistiquement qui va arriver. Puis après ça, je suis confirmé par le chart. Je suis confirmé par le graphique, mais je prends pas un trade juste basé sur un graphique. C'est il manque des pièces là, au puzzle.
Comme là, on sait que fondamentalement, le dollar américain, il va monter jusqu'au ciel. Sac.
Ça va être impressionnant qu'est-ce qui va se passer.
Mais ouais, pour être impressionnant, ça va être impressionnant.
Yes. Ça bouge en tout cas. C'est un bon temps pour commencer à étudier ce domaine-là. Parce que, tu sais, je regarde aujourd'hui, là, les Tim Hortons qui ferment à 10 heures, les McDonald's qui sont plus 24 heures. Moi, je cherchais pour une de mes compagnies, je cherchais un employé, ça ne l'engage plus. Là, tu commences à te dire, les gens ne veulent plus travailler. Non. Puis il y a des mouvements dans l'économie qui sont en train de se passer en ce moment que si tu apprends où est-ce que le futur va aller, ben, tu vas être capable d'être sécurisé par rapport à ça. Puis si tu devrais commencer à sérieusement regarder, à étudier l'immobilier, le trading ou moindrement comment partir une business. C'est trois domaines que si tu n'as pas un de ces trois-là dans ta poche en ce moment, là, t'es dans le trouble dans les prochaines années. Là.
Ce qu'on appelle la sécurité est en train de se réduire de plus en plus.
Ouais, vraiment.
Ouais.
All right.
Bon, mais
merci.
C'était un super bel épisode.
Ouais, vraiment. Merci pour beaucoup de
tout
valeur.
Le partage.
Ouais. Merci de l'invitation.
Est-ce que tu as un conseil non financier en général pour les gens qui se lancent dans ce domaine-là que tu aurais à leur dire en 30 secondes?
En 30 secondes, moi, j'ai brûlé plus à faire des essais-erreurs dans le marché que qu'est-ce que ça m'a coûté en éducation. Tu dois jamais être cheap sur ton éducation. Toujours, toujours, toujours t'éduquer parce que si c'est pas toi qui paye pour de l'éducation, c'est le marché qui va t'éduquer. Puis quand le marché t'éduque, ça coûte plus cher. Fait que les gens sont super cheap pour leur éducation parce qu'ils ont hâte de trader. Mais comme j'ai dit au début, là, moi, j'ai mis 63 000 dans mes licences de pilote d'avion pour finalement pas réaliser que je voulais devenir pilote d'avion. Ben, si j'étais prêt à mettre 63 000 en licence de pilote, qu'est-ce que je te prête en éducation pour apprendre à trader une formule qui va m'imprimer de l'argent pour le reste de ma vie? Là. Fait que connaître la valeur de ce que tu veux étudier.
Love it.
Wow. Amen.
Nice.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir, les gars. Merci de l'invitation. Partage.
Puis on se refera un autre épisode, c'est sûr, à un moment.
Plaisir.
Ciao.
Ciao.